culture.
Eh bien, nous voilà partis dans le petit train de la culture Gomez. Oui.
Mais oui, Jean-Marie.
Voilà. Isabelle est là.
Je suis là et je vous dis bonjour à toutes et à tous.
Coralie qui est en face de moi.
Bonjour, bonjour.
Et Lou.
Bonjour, bonjour voilà. À tous et à toutes.
Alors, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Sud, nous allons donc commencer cette magnifique émission sur la culture. Qu'est-ce qui se passe?
Je pense que tu t'agites un peu dans ton fauteuil et ça fait des...
Ah, c'est parce que je suis sur les starting blocks, impatient de voir. Je vois Coralie.
Tu ne vois rien du tout.
Ah si, j'ai déjà vu.
Tu ne vois rien du tout. Eh bien, si tu as vu, chers auditeurs, je vous propose une petite découverte qui va changer de d'habitude. On va d'abord commencer avec la musique. Donc, c'est une musique qui s'appelle Again de Yui et Nathan. C'est à toi de jouer. やり残してることやり直してみたいから夢の続き追いかけていたはずなのに曲がりくねった細い道人につまずくあの頃みたいにって消せないのをなくしてきた空を探してる分かってくれますように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ次の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ行き見えない感情迷路に誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ何から逃れたいんだ現実って熱くなるために生きてるんだって叫びたくなるよ Voilà, les inconditionnels des mangas et animés auront reconnu évidemment l'opening de Fullmetal Alchemist. Alors pourquoi Fullmetal Alchemist? Parce que je me suis dit que vous pourriez très bien surprendre votre entourage en leur parlant de manga. Voilà, alors le manga, pour parler très grossièrement et très vulgairement, c'est de la bande dessinée japonaise. Alors, évidemment, comme c'est japonais, le sens de lecture est totalement inversé et on commence par la fin du bouquin. Voilà, ça rappelle, oui. Ce n'est pas sans rappeler les droits du lecteur qui sont de sauter des pages, de commencer par la fin, de... Voilà, je pense que c'est toujours assez sympathique de les rappeler. Et donc, Fullmetal Alchemist, c'est l'histoire en fait de deux frères, dont j'ai complètement oublié les noms, évidemment, Edward et Alphonse Elric. Hein,
ah oui, c'est pas très japonais ça.
Au niveau du Japon, évidemment, on va pas dire Edouard, on va dire Eduardo.
D'accord.
Voilà, c'est comme le
c'est
fait de remplacer...
C'est toujours pas très japonais,
toujours
Eduardo.
Pas du tout, mais en même temps, ils ont les cheveux blonds, donc ils ne sont pas du tout japonais à la base.
Okay.
C'est ça qui est bien avec le Japon, c'est que le Japon, il va piocher dans toutes les cultures. Tout en rajoutant sa petite touche personnelle un petit peu très japonisante et donc très particulière. Alors, ces deux enfants, hein, puisqu'ils ont, au début de l'histoire, 12 et 14 ans, sont orphelins. Leur père est parti en voyage, il a disparu, on ne sait pas où, et leur mère est décédée. Et la particularité de ces enfants, c'est qu'ils ont essayé de faire appel à l'alchimie, qui est un procédé bien connu pour changer le plomb en or. Et dans cet univers-là, l'alchimie permet de faire des centaines et des centaines de choses. Ils ont essayé de ressusciter leur mère. Alors évidemment, comme tout principe alchimique qui se respecte, pour obtenir une chose, il faut en abandonner une autre. Je ne vous dis pas ce que les enfants Elric ont abandonné, car c'est à découvrir dans le manga, et l'histoire est particulièrement prenante. Alors évidemment, au-delà de l'alchimie, il y a toute une histoire sur leur pays, qui n'est pas sans rappeler les pays dictatoriaux, puisqu'il y a le grand commandant qui, après des hauts faits d'armes, a été élu président et qui, depuis, a décidé de ne pas lâcher le pouvoir. Et ce, au moyen de centaines de complots, d'assassinats. et de violence. Voilà. Alors évidemment, ils ne seront pas seuls face à l'injustice du monde. Il y a plein de personnages qui sont tous extrêmement bien développés. On dit souvent que le manga, comme la bande dessinée, sont souvent un peu sous-cotés. On se dit qu'il n'y a pas le temps de développer une histoire, il n'y a pas le temps de développer une personnalité. C'est faux. Déjà, pour la bande dessinée, prenez les Jean-Claude Servais. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que niveau personnalité, ils sont super bien développés. Pour le manga, c'est pareil. Alors, Fullmetal Alchemist, il me semble qu'il est édité en une vingtaine de tomes, à peu près. Et donc, ça veut dire que pendant 20 fois 60 pages, hein, puisque c'est à peu près ça que ça fait, pendant 20 fois 60 pages, on découvre ces personnages, on en apprend plus sur leur histoire, on en apprend plus sur leurs rêves, sur leurs désirs, sur leurs amis, sur les liens qui les unissent, etc., etc. Et franchement, pour un manga qui est accessible ici à partir de 10 ans, parce qu'il voilà, y a un peu de violence, mais il n'y a pas vraiment de sang, les dessins sont en noir et blanc, les choses vraiment choquantes sont suggérées et cachées, donc c'est vraiment accessible très très tôt. Et pour une histoire qui est accessible à partir de 10 ans, il y a énormément de métaphysique et de questions métaphysiques là-dedans. Vraiment, vraiment beaucoup.
Donc il y a du fond.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fond sur une forme qui ne va pas rebuter les personnes qui ont des difficultés de lecture parce que, ben, voilà, comme une bande dessinée, il y a beaucoup de lectures d'images et il y a des petites bulles à droite et à gauche. Voilà, et là, évidemment, j'ai ouvert le livre sur le moment qui me fait le plus pleurer, donc je vais le reposer. Parce que, voilà, il y a des moments qui sont vraiment très, très forts émotionnellement parlant.
Et c'est amusant que tu présentes un manga, parce qu'on en parlait donc hors antenne. C'est une lecture de plus en plus appréciée par les adolescents et les ouais. pré-ados, effectivement, à partir de 10 ans. Et donc, c'est bien si les adultes et les grands-parents s'y mettent aussi pour pouvoir en parler avec les jeunes et pas se dire « c'est un monde à part ». Parce qu'il y a de toutes sortes, en fait, dans les mangas, comme dans les romans, dans la littérature générale.
Voilà, alors effectivement, ici, Fullmetal Alchemist, on va quand même partir sur quelque chose d'assez fantasy, hein, parce que voilà, l'alchimie, bon, bah, c'est pas vraiment de l'ordre du réel. Mais dans l'ordre du réel, il y a notamment le maître des livres, qui raconte l'histoire d'un bibliothécaire dans une bibliothèque jeunesse au Japon. Donc l'histoire est tout à fait classique, hein. C'est un monde très concret, puisque c'est le monde d'aujourd'hui. Et on voit ce bibliothécaire qui, grâce à la littérature jeunesse et grâce aux livres jeunesse, aide non seulement les enfants, mais aussi les adultes. Alors il a un petit côté un peu pincé, et j'aime pas trop les adultes, mais avec les enfants, il n'y a pas de souci. Ça, c'est son côté un petit peu particulier. Et il me semble que ça doit être en 4 ou 5 tomes, le maître des livres, donc c'est très très court aussi. Mais il y a vraiment énormément de contenu. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la culture japonaise, mais tout simplement aussi créer un lien avec des ados, le manga, c'est franchement tout bénef.
Et Emmanuel Guillaume, là, de la marche des philosophes, hein, continue ta route. C'est donc l'histoire de Rémi sans famille. Il expliquait que c'est un texte qui a été écrit par un Français.
Oui, Hector Malo.
Voilà. Et qu'il y a un Japonais qui en a fait un dessin animé. Donc 52 épisodes de 26 minutes. Et ils étaient trois pour le faire. Et alors, les gens ont dit à l'époque, bah, le manga par rapport à Walt Disney. D'abord, Walt Disney, il y avait des équipes de 500 personnes qui travaillaient. Et donc, ils ont développé un style de dessin animé tout à fait particulier, avec tout un tas d'astuces. Pour faire les choses plus vite, quoi, hein, au départ. Et puis, lui, il avait l'air de dire que c'était, dans Rémi sans famille, l'invention du manga. Ah oui. En dessin animé, en tous les cas. Je suppose que ça existait déjà en version papier, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait quand ça a été inventé, ça le...
Alors, en fait, ça a toujours existé, en fait, le manga. Ça ne portait pas ce nom-là à l'époque, mais c'est tiré en fait des anciennes estampes japonaises, donc ça peut remonter jusqu'au 16e siècle très facilement, en fait.
Ah oui, voilà, ça pense à Pervers Pépère.
Après, la forme de lecture un petit peu en petit bouquin comme ça, pas cher, c'est arrivé beaucoup plus tard, vers le début du 20e siècle, à peu près. Et ça s'est vraiment popularisé dans le 21e siècle, parce qu'en fait, au Japon, il y a plein de petites librairies à côté des stations de métro, etc. Et il est tout à fait concevable de prendre le truc, de lire en attendant son machin, et si on l'a fini, de le reposer, de partir sans le payer. Parce que, voilà, pour eux, la culture est un bien qui s'achète quand on le désire, mais pas forcément à tous les coups.
C'est une bonne idée.
Et on appelle ce principe-là la lecture debout, d'ailleurs. Voilà, le fait, ça porte même un nom, donc c'est pour dire à quel point c'est popularisé là-bas.
Oui.
C'est que ça porte un nom que nous, on a traduit par lecture debout. Donc, après, je vous rassure, chez nous, la culture se paye, mais grâce aux bibliothèques, elle se paye vraiment pas cher. Et pour les moins de 18 ans, il me semble qu'elle ne se paye pas.
Même pas.
De quoi vraiment donner envie à nos petits loups de découvrir un peu de nouvelles cultures.
Voilà, et s'ils ne jurent que par les mangas, eh ben, ne les blâmez pas parce que c'est très riche.
Vraiment très très riche. En tout cas, voilà, y a des histoires qui sont plus douces. Hein. On a par exemple Chi, l'histoire d'un petit chat qui est recueilli par une famille. Donc ça, c'est déjà à partir de 6 ans parce que c'est vraiment très doux, très mignon. Et puis, on a des histoires avec beaucoup plus de fond, comme Full Metal Alchemist. On a des histoires d'amour avec Divine Nanami. Hein, c'est l'histoire d'une jeune femme qui devient déesse de la Terre totalement par hasard. voilà.
C'est merveilleux.
Voilà, ils ont vraiment tout lancé. Et alors, évidemment, il y a des mangas pour adultes, où là, on va retrouver, par exemple, Berserk, qui est un manga extrêmement violent, ou Death Note, qui a été notamment adapté par Netflix. Je vous déconseille fortement l'adaptation Netflix.
Mais il y en a une autre avant qui était pas mal, je trouve.
Qui était extrêmement bien faite, qui était faite par les Japonais. Donc, ils avaient, entre guillemets, c'était la même culture. Et donc, il n'y avait pas d'adaptation à faire. Alors que Netflix, ils ont essayé d'adapter ça avec le modèle américain. Et forcément... qui est américain.
Oui, ils ont fait ça avec Dark Crystal aussi.
Hein. N'est pas japonais. Oui, ils le font avec beaucoup de films.
Qui était vraiment massacré.
Oui. Ben voilà, Death Note, c'est pareil, ça a été massacré. Mais le manga et l'adaptation du film japonais sont vraiment excellents. Avec toute l'idée du complexe de Dieu qui est fortement mis en avant. Et aussi, si vous aviez le pouvoir de tuer quelqu'un comme ça, en ayant à la base de très bonnes intentions, de ne tuer que les criminels, jusqu'où pourriez-vous aller? Où s'arrête le crime et où commence la petite bêtise?
Oui, l'enquêteur est très particulier. Hein.
Très particulier,
vraiment.
Oui.
Vraiment personnage vraiment intéressant.
Alors, je vais peut-être lire le premier manga de ma vie.
Ah ben voilà. jamais trop tard pour découvrir d'autres formes. Hein.
Moi, j'irai lire Chi sur le petit chat.
Oui, parce que celui-là est vraiment
très mignon. Oui, je vais commencer par là aussi.
Il est vraiment très mignon, vraiment, vraiment. Donc voilà, je me dis, culture manga, pourquoi pas essayer, hein.
Mais c'est très bien, oui.
Et vous en avez à Florentville, je pense.
Oh oui, oui, oui.
Oh, voilà.
Mais on en a beaucoup qui sont empruntés, donc c'est parfois difficile d'avoir ce qu'on souhaite au moment où on le souhaite. Mais on essaye de suivre, oui.
Effectivement, et de toute façon, il y a toujours l'appui du réseau aussi, hein.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous rappeler pour nos auditeurs éventuellement le numéro de téléphone de la bibliothèque qui puisse éventuellement réserver leur premier manga?
Oui, 061 320 340 et sinon aussi par mail. Alors là, prenez votre élan, c'est long, bibliothèque.local.florentville@province.luxembourg.be. Oui, Lou, ça y est, c'est fini.
Merci. Je suis endormie avant que tu arrives à la fin de l'adresse email.
Et pour ceux qui ont une page Facebook, on a une page Facebook. Enfin, pour ceux qui sont sur Facebook, on a une page Facebook et un Messenger qui est associé, Bibliothèque de Florentville, et on essaye d'y répondre dès qu'on voit les messages.
Voilà, donc il y a vraiment toutes les solutions possibles. Vous n'avez plus d'excuses.
Voilà.
Laissez-vous tenter par un manga. Voilà. Écoute, Jean-Marie, je vais te céder la parole parce que je vois que tu as ramené le beau bouquin de la dernière émission.
Oui, oui, l'avant-dernière. Hein.
J'espère que tu as préparé ta réponse.
Oui, donc je reviens à Drawdown de Paul Hawken. Hein. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire? Alors, je vais demander à Nathan de nous passer une musique qui va un peu illustrer la réaction qu'il y a eu quand j'ai parlé de ce livre.
J'ai dit tout, comme tu me dis que tu m'aimes plus. Car bon, j'ai dit tout, sur le cimetière des îles. Les femmes, j'ai dit tout, en ce qui concerne.
Voilà, une petite digression, on discutait ensemble pendant que la musique passait sur le langage utilisé dans cette chanson. Il y avait sur Sarah Mondiano qui chante en français, mais on a conjecturé que c'était du swahili. Alors si toutefois un auditeur, une auditrice maîtrise le swahili, ce serait gentil de nous envoyer la traduction de cette chanson, parce qu'on ne sait pas ce que ça raconte. Hein. Bon, voilà. Alors revenons donc sur la réaction dubitative de mes collègues féminines au sujet de l'éducation des filles. Alors précisons évidemment qu'il est question d'éduquer des filles qui ne le sont pas encore, hein, parce que sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, sur quoi est basée cette assertion, à savoir que l'éducation des filles serait le moyen, le classement numéro 6 pour réduire l'impact du réchauffement climatique ou même le renverser. Alors, c'est basé sur une étude publiée en 2011 dans la revue Science. Moi, déjà, par exemple, je ne remets pas en question quelque chose qui est publié dans Science, mais bon, passons. Donc, ils ont publié une étude sur les répercussions de l'éducation des filles sur la croissance démographique en se basant sur l'expérience de la Corée du Sud, qui est passée très rapidement, comme ça, d'une société où les filles n'étaient pas éduquées quasi pas, au fait qu'elles avaient plus de 12 ans d'éducation. Ils se basent quand on dit éduquer les filles, ça veut dire qu'elles aient accès pendant 12 ans à l'éducation, c'est-à-dire primaire et secondaire. Et donc, ils ont extrapolé cette expérience coréenne à tous les pays où les jeunes filles ne sont pas éduquées. Et ils sont arrivés au chiffre qu'en 2050, il y aurait 853 millions de naissances en moins. Donc, c'est une extrapolation d'une expérience qui s'est passée à l'éducation des jeunes filles dans les pays où elles ne sont pas encore. Alors, bien évidemment, 853 millions de naissances en moins, c'est 853 millions de personnes qui ne produisent pas de CO2. Alors même si dans les pays pauvres où les jeunes filles sont moins éduquées, parce que généralement, ben la fille, elle reste là, on envoie le garçon. Le garçon, c'est quand même plus important dans beaucoup de cultures, et donc elles ne sont pas éduquées. Alors, une femme non éduquée, entre une femme qui a fait 12 ans d'études et qui n'a pas fait d'études, ça représente 4 à 5 enfants en moins. Ouais. Parce que, bon, on connaît tous le désir du mâle de se reproduire. Hein. Et donc voilà, si la femme n'a pas fait d'études, elle n'est relativement peu équipée pour argumenter sur exprimer sa volonté et la faire respecter.
Oui, et puis à partir du moment où c'est une société où on admet que les filles puissent aller à l'école pendant 12 ans, c'est qu'a priori, on admet qu'elles ne sont pas forcément cantonnées à la cuisine et au ménage.
Voilà.
Donc c'est corrélé, mais...
Alors très souvent, les femmes sont aussi responsables du budget dans la famille, et ça c'est quelque chose d'assez curieux, parce qu'elles ont quand même une maîtrise de ça, tout en ayant un aspect de soumission, quelque part, il faut bien le dire, et elles s'occupent aussi d'agriculture. Et donc une jeune fille éduquée sera plus productive, sera capable de produire plus de choses, et cet aspect-là va donner le fait que il y a plus de régions cultivées, en fait, et que des productions soient de meilleure qualité, et bien ça augmente la résilience des systèmes agricoles aux problèmes liés au changement climatique. Alors, dans l'Afrique subsaharienne, il y a seulement 8% des filles qui terminent leurs études secondaires. Donc, il reste quand même 92% des filles qui sont encore éduquées. Alors, bon, ça, c'est un... il suffirait d'injecter 39 milliards de dollars et alors on comblerait ainsi le déficit d'éducation des jeunes filles. En Asie du Sud-Est, moins de la moitié, en Asie du Sud, pardon, moins de la moitié terminent leurs études secondaires. Alors, on connaît la situation des femmes en Inde, surtout depuis l'arrivée de Modi au pouvoir, c'est devenu vraiment une véritable horreur. Enfin, c'est apocalyptique. Moi, j'ai été en Inde il y a une trentaine d'années. Alors, bon, c'était peut-être déjà pas très bien brillant la position de la femme à cette époque-là. Mais alors là, maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose de tout à fait abominable. Ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le réchauffement climatique, mais l'éducation va quand même leur donner des points de repère différents, élargir les horizons, donner de la connaissance, et surtout les autonomiser. Parce qu'avec un diplôme, ben forcément, on peut avoir une profession, on peut être payé, avoir un revenu, etc., etc.
Oui, tout à fait.
Mais donc tout ça quand même, l'éducation des filles va permettre tout ça, mais l'éducation des filles ne sera permise dans ces sociétés-là que si les hommes sont éduqués à permettre l'éducation des filles.
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr.
Je crois qu'effectivement qu'il faut que ça passe comme ça. Oui.
parce que je pense que les filles, la plupart, ne demanderaient pas mieux que d'être éduquées. C'est juste que les hommes ne le permettent pas dans cette société-là.
Ou les hommes, la famille, je dirais.
La famille, que moi, j'ai... c'est vrai que quelquefois, les femmes, elles perpétuent la tradition en disant que c'est la tradition.
Étonnamment.
C'est vrai.
Oui, oui. Et donc, il n'y a pas que les hommes qui sont concernés. Oui. J'ai une expérience avec le Cambodge, par exemple, qui est un pays très pauvre, et où, effectivement, tu disais, je ne sais pas combien de pourcentage de filles sont scolarisées, mais très peu. Et alors, il y a des associations qui aident les petites filles à aller à l'école, mais les parrainages doivent être de plus en plus important parce qu'il y a la concurrence des usines, des grosses usines américaines notamment, des productions de vêtements, etc., qui vont dans les écoles et qui disent voilà, il y a autant d'argent à gagner, et souvent les parents cèdent et disent bon d'accord, on abandonne le parrainage, la petite ne va plus à l'école mais elle va travailler en usine.
Et donc c'est
une question financière, c'est une question de moyens, et je pense effectivement que ces milliards de dollars seraient bienvenus pour que ces petites filles puissent avoir accès à simplement pouvoir se lire, écrire, se débrouiller, et puis peut-être réfléchir aussi au nombre d'enfants.
Je ne connais pas le budget de l'armée américaine, mais à mon avis c'est bien bien plus que ça.
Évidemment.
Donc avec un petit 40 milliards de dollars, toutes les jeunes filles de la planète peuvent faire 12 ans d'études. Alors l'estimation, bon, je ne connais évidemment pas le détail des calculs, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Ils arrivent à peu près à 60 milliards de tonnes de CO2 en moins d'ici 2050. Donc je voudrais revenir juste quelques instants. C'est un bouquin que j'ai trouvé à la bibliothèque de Florentville. Il s'appelle Drawdown. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire. Enfin, c'est coordonné par Paul Hawken, H-A-W-K-E-N. Et alors, c'est une brique, hein, et qui reprend toutes les solutions classées par ordre d'importance pour inverser le cours du réchauffement planétaire. Et ça, je trouve que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, pour le moment, de livres qui parlent de réchauffement planétaire, et on fait bien d'en parler, bien sûr, mais qui sont souvent descriptifs de l'état abominable et de...
Oui, qui font juste le constat et qui ne proposent pas de solution. Mmh.
Tandis qu'ici, il n'y a pas de constat, on ne parle pas du constat, c'est un fait acquis, voilà, on ne vient pas là-dessus, et c'est orienté solution, comme on dit de nos jours. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment très positif. Et la dernière chose que je voudrais rappeler, c'est ça, c'est quand même vraiment extrêmement important. Isabelle disait que ben voilà, pour que les jeunes filles soient éduquées, il faut que la société, la tradition et les hommes l'acceptent, etc. Alors il y a beaucoup de solutions, comme par exemple la géothermie, des centrales solaires, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses l'organisation des villes, tout ça dépend un peu d'institutions, etc. Mais le classement numéro 3, donc pour lutter contre le réchauffement planétaire, c'est éliminer le gaspillage alimentaire. Il faut savoir que à peu près 25% du gaspillage alimentaire a lieu dans les familles, chez les gens. Mmh. Bon, alors on pointe du doigt la grande distribution et ceci et cela, mais à travers lutter contre ce gaspillage, ben, c'est un moyen, le troisième plus efficace pour lutter contre le réchauffement. Donc voilà, un livre vraiment à... On ne va pas tout étudier, mais vraiment à feuilleter.
À consulter.
Et il y a beaucoup d'idées. Des gens qui aménagent leur maison, par exemple, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes. Et par contre, il y a certaines choses où on se dirait, tiens, ça c'est vraiment bien. Et on réalise que non, c'est relativement peu important. Voilà.
Oui, et puis moi, pour rebondir, en fait, j'ai entendu récemment parler d'une... Mais j'ai oublié le nom, évidemment. D'un organisme qui essaie d'éduquer les gens à ne plus jeter... en faisant la différence entre la date de péremption et la date de préférence, à consommer de préférence avant. En fait, on peut toujours consommer quand c'est à consommer de préférence avant. Il suffit de goûter, de sentir, enfin bon. Ils essaient parce qu'il y a un gaspillage absolument incroyable.
Et il y a aussi certaines dates de péremption qui, du coup, sont indiquées pour des contrôles AFSCA. Mais par exemple, avec un yaourt blanc nature, sans sucre, sans fruits, etc., même un mois après cette date, il est toujours consommable.
Oui.
Puisque, si vous ne le saviez pas, je vais vous dégoûter, attention, le yaourt, ce n'est jamais que du moisi. Mais c'est du moisi comestible.
Oui, chers auditeurs, chères auditrices, je préférais parler de fermentation lactique. Franchement, Coralie...
C'est du moisi.
C'est le côté positif, fermentation lactique.
Ben, comme la choucroute. Ou bien le saucisson.
Voilà. Ah ben voilà.
Eh bien, voilà, moi je ne vais pas vous parler de fermentation lactique, mais je vais vous parler d'un petit roman qui est vraiment agréable à lire et qui fait sourire. Alors, c'est un roman de Sophie Bassignac, et qui est paru aux éditions Lattès, et ça s'appelle « Séduire Isabelle A ». Alors, Isabelle A, c'est Axilette, mais elle est la petite fille de James Pettigrew et de, je ne sais plus comment s'appelle la femme de James, peu importe. En tout cas, elle fait partie de la famille des Pettigrew, qui sont tout à fait loufoques et décalés. Pierre Réveillon, quel magnifique nom, est tombé éperdument amoureux d'Isabelle Axilette. Mais Pierre est un journaliste politique très sérieux qui vient d'une famille bourgeoise légèrement coincée et qui, car il est tellement amoureux qu'il a demandé Isabelle en mariage, mais la belle ne peut donner son assentiment que si Pierre est accepté par la famille entière. Alors la famille entière, c'est à la fois les grands-parents, loufoques et décalés, les parents, loufoques et décalés, les frères et les sœurs, loufoques et décalés, et même les neveux et les nièces, loufoques et décalés. Alors le malheureux Pierre Réveillon, qui pensait passer quelques jours au bord de la Loire et de se séduire la famille d'un coup de, voilà, hop, baguette magique, va vivre un véritable cauchemar. Il a failli être empoisonné par la tante, encore par un taureau, et je vous passe bien des péripéties. Alors, il tente de garder le cap, hein, parce qu'il est amoureux de sa belle, vraiment, il tente, mais à un moment, il craque. Il fouille cet enfer, il se réfugie dans le cocon familial extrêmement bien organisé et structuré. Bon, mais il aime quand même bien Isabelle. Alors, bon, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, parce que si le mariage a lieu, ça sera vraiment le mariage entre la fantaisie et le pragmatisme, le réalisme. Mais parfois ça marche. Alors moi, j'ai passé un moment bien agréable avec ce roman, et je vais vous lire le début, les deux premières pages, comme ça vous donnera un petit aperçu. Pierre est donc arrivé dans la maison familiale des Pettigrew, dans la Loire, avec Isabelle. Il est arrivé la veille au soir. La lumière du matin, par la fenêtre ouverte, déposait sur la peau d'Isabelle un voile léger et irisé. Le drap rejeté au bout du lit ne masquait de sa nudité que l'extrémité de ses pieds. Pierre bandait salement. Mais elle dormait si bien qu'il décida de prendre son mal en patience. Il frôla le corps de la jeune femme du plat de la main, de ses hanches enfantines jusqu'à ses épais cheveux noirs. Puis, le dos calé par deux oreillers, il entreprit de faire un état des lieux de la chambre qu'il n'avait aperçu que dans une semi-pénombre à 1 h du matin. La pièce était à l'image du reste de la maison, sans dessus-dessous et comme balayée par une tornade américaine. Sur une commode peinte de motifs fleuris en partie effacés, gisait un bric-à-brac déteint et oublié là depuis des lustres, aussi pléthorique que les fourre-tout déprimants de Stan de vide-grenier. La tapisserie des murs, une entêtante répétition de petits oiseaux de paradis, était constellée de piqûres d'humidité, de cartes postales défraîchies et de dessins d'enfants, punaisés pour la plupart de travers. Une armoire aux dimensions invraisemblables occupait la moitié de la pièce, monument inquiétant rempli de vieux vêtements habités sans doute par des meutes de mythes. Il pensa un peu affolé que si les lieux reflétaient la personnalité de leur propriétaire, Isabelle était bordélique, traumatisée et réfractaire aux lois de la symétrie. Une main posée sur la croupe de sa belle endormie, Pierre se repassa le film sidérant de sa soirée de la veille. Il devait regarder les choses en face. Depuis 6 mois qu'il sortait avec Isabelle, il tombait des nues à peu près tous les jours. Partant du principe qu'elle était une fille limpide, celle-ci prenait des airs épuisés dès qu'on la forçait à approfondir ou à s'expliquer. Il fallait sans cesse combler les béances et trouver seul le pourquoi du comment de ses nombreuses extravagances. Il aurait évidemment dû se méfier du portrait bâclé que sa petite amie lui avait fait de ses grands-parents. Sans entrer dans les détails, elle lui avait dit que sa famille était spéciale. Un spécial qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. C'était a posteriori une évidence. Alors voilà, j'ai trouvé ce roman vraiment très drôle et je vous invite à l'emprunter dans les bibliothèques dont on vous parle chaque fois dans cette émission, donc Florentville, Chamoine, Zérouville, et voilà, vous passerez un bon moment. Une petite parenthèse dans un monde qui n'est pas toujours jojo, hein. Voilà.
Ça demande.
Alors, on y va avec Charles Trenet. Il y a de la joie.
Il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les rues, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tous les jours, mon cœur va chavirer et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Les boulangers valent la pâte à plein bras, il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station où j'avelle, on voit une vitraux qui sort de son tunnel. Grisé le soleil de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur, il a de la joie. La tour est faite par un palade comme une folle, et le saut de la scène à pied joint, puis elle dit, tant pour moi si je suis malade, moi pété tout seul dans mon trône. Donne à toi. Le percepteur met sa chaquette plus boutique et dit de l'air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, c'est bien la quête, gardez tout, mais si je gardais tout. Et pas là que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et oui, car le ciel est gris. Faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie. Et le soleil, et bien de la joie. Y'a de la joie, bam, bam, tout le jour, mon cœur bat. J'adore les chansons, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, les demoiselles, y'a ta joie partout, y'a ta joie, y'a ta joie, y'a ta joie.
Bien voilà, Coralie est prête déjà avec un deuxième livre. Oui. Est-ce aussi un manga?
Non, pas du tout.
Pas de manga.
Mais je suis restée dans l'idée d'une littérature un peu différente, d'une littérature plus courte, hein, pour permettre à tout le monde d'y trouver son compte. C'est un recueil de nouvelles. Voilà, alors ça s'appelle « Le livre des histoires perdues » et c'est écrit par Reinhard Jung, publié chez Alice Édition. Pour une fois, je vous présente du belge. Mmh. C'est bien aussi de présenter du belge. Alors, on découvre en fait l'histoire de Bamber, qui est le personnage principal qu'on voit sur la couverture, un petit bonhomme assez sympathique et très rêveur en fait, écrivain à ses heures perdues, et qui décide d'enlever toutes les histoires qu'il a dans sa tête. Alors, voilà, pour ceux qui se demandent ce qu'était le claque, c'est la bague de loup, et ne vous en faites pas, Jean-Marie lui a jeté le regard incendiaire. Vous savez bien, sur Radio
Sud,
je devrais
porter des plus petites bagues.
C'est comme si on était à la maison. Voilà. Et donc, il décide de supprimer les histoires qu'il a dans la tête en les couchant sur le papier, de devenir écrivain. Et donc, ces petites histoires qu'il a en tête composent les nouvelles qui sont dans ce livre et qui sont au nombre de 12. Voilà. Donc c'est vraiment 12 petites histoires, ce qui fait que du coup c'est hyper pratique pour couper la lecture en fait. Voilà. Et je me propose de vous lire la première pour une petite mise en bouche. Mmh. Et si jamais elle vous plaît, surtout n'hésitez pas à aller chercher ce fantastique bouquin. Bamber était un homme très petit, à la tête si enfoncée dans les épaules qu'on ne lui voyait presque pas de cou et qui avait beaucoup de mal à marcher. Il ne se déplaçait jamais sans sa précieuse canne noire à pommeau d'or. Elle l'aidait à se frayer un chemin dans la vie. Petit par la taille, Bamber était pourtant un grand écrivain. Cela, nul ne le savait, car il n'avait jamais montré aucune de ses histoires à quiconque. Il vivait en solitaire, mais grâce à elle, il n'était jamais vraiment seul. Ces histoires vivaient en lui de la même manière que lui vivait par elles. Elles lui permettaient de voyager comme personne dans l'espace et dans le temps. Des douleurs aux hanches l'empêchaient de découvrir le vaste monde. Il n'espérait plus rien des médecins. Il avait souffert tant et tant entre leurs mains durant son enfance. Il lui avait retendu les tendons, étiré la peau, redressé les os, pour en arriver à cette conclusion. Bamber ne grandirait jamais. Il devait se résigner à son sort. Il se sentait le capitaine d'un navire échoué sur un rivage hostile de l'autre côté du rêve. Le monde était une épreuve infinie. Il n'atteindrait jamais le paradis perdu. À la mort de ses parents, Bamber avait rassemblé son héritage et adapté la maison familiale à ses besoins. Monsieur Flore, l'épicier, continuait à tenir son épicerie au rez-de-chaussée, mais il avait transformé toutes les autres pièces du premier étage jusqu'au toit, et le menuisier avait confectionné des meubles à sa taille. L'écrivain avait fait installer un fauteuil électrique sur les rails le long de l'escalier afin de monter sans peine au grenier. Il aimait prendre place devant la lucarne pour contempler les lointains. À la nuit tombée, il conversait en silence avec la lune. C'était comme si elle lui tendait un miroir et qu'il pouvait y contempler le spectacle du monde. Les histoires volaient jusqu'à lui. Le jour venu, il les transcrivait dans un grand livre qu'il avait appelé le Livre des Désirs. Bamber avait beaucoup étudié. Il avait lu chacun des 1000 livres de sa bibliothèque. Il voyait le monde par les yeux des poètes et des écrivains qu'il connaissait. Mais le monde, par contre, ne connaissait rien de sa vie à lui. Bamber lisait le journal, mais il évitait la télévision. Les images qui défilaient sur le petit écran le faisaient paniquer. Face à la violence de la plupart des événements, il se sentait impuissant. L'idée saugrenue que toutes ces images avaient été prises au même moment intensifiait son impression de n'être qu'un fétu de paille. Aussi, Bamber refusait-il de laisser entrer la télévision chez lui, car c'était comme si elle lui reprochait personnellement son existence confinée, ses déplacements à pas menus et son goût pour la lenteur en toutes choses. Bamber quittait rarement sa maison. Il craignait autant la pitié des adultes que la moquerie des enfants. Alors Monsieur Flore, l'épicier du rez-de-chaussée, lui envoyait des vivres et des boissons par le monte-charge qu'il avait fait installer. Au service pour l'emploi, son talent d'écrivain n'était pas reconnu. On ne lui proposait que des portes où sa petite taille, que des postes où sa petite taille constituait un atout. Mais il n'avait aucune envie de jouer le rôle d'un des 7 nains dans un parc d'attractions, ni d'amuser la galerie dans un spectacle de variété. Ce n'était pas que Bamber avait quelque chose contre les nains, non. Mais il était un être humain aussi, et un écrivain. Et d'être difforme ne l'empêchait pas d'avoir sa fierté. Un jour que Bamber était assis à feuilleter le Livre des Désirs, il se rendit compte qu'il n'y avait plus de place que pour une seule histoire. Cette dernière histoire, se dit-il, il faut qu'elle soit singulière. Il faut que ce soit une histoire inventée, oui, mais en même temps, une histoire qui ait vraiment lieu. Comment procéder ? Cette nuit-là, le ciel resta couvert et la lune refusa de répondre à la question de Bamber. L'écrivain eut soudain l'impression que toutes les histoires qui se promenaient en totale liberté dans son cerveau étaient en réalité emprisonnées dans le Livre des Désirs. Pour qu'une histoire inventée prenne vie, il fallait qu'elle puisse courir le monde. Il fallait qu'elle trouve le décor de son choix, sa ville, son fleuve, son océan. Il fallait qu'elle prenne corps dans des êtres humains de chair et de sang. Et il fallait que ces personnages évoluent dans des paysages naturels et qu'ils vivent dans de vraies maisons. Ce fut cette nuit-là que Bamber décida de déchirer son Livre des Désirs en plusieurs cahiers. Les histoires étaient maintenant étalées devant lui. L'écrivain commanda à Monsieur Flore un efface-encre, et dès qu'il arriva dans la cuisine par le monte-charge, Bamber se mit au travail. Il effaça tous les noms de lieux. Il était certain que ces histoires avaient en elles la force de trouver leur vrai décor. Il ne toucha cependant pas aux personnages. Les effacer, cela aurait été comme les tuer. Pour la toute dernière histoire, il avait réservé les quatre feuilles vierges. Bamber n'y avait encore couché aucun mot, mais il espérait secrètement qu'elle serait capable de s'écrire toute seule, si elle essayait. Alors, il agrafa les pages ensemble comme il avait fait pour les autres histoires. Ensuite, il glissa chacune d'elles dans une enveloppe. Bamber envoya aussitôt une nouvelle commande à M. Flore. L'épicier fut surpris de lire la requête de l'écrivain. « Merci de me procurer 11 petites montgolfières en papier japonais, propulsées par des bougies pour chauffe-plat et aptes à voyager au loin. Bamber. » Il attendit 2 longues semaines, mais M. Flore finit par lui envoyer ce qu'il avait demandé. Des ballons à air chaud en papier japonais et les bougies chauffe-plat qui allaient avec. Tout cela parvint à l'écrivain par le monte-charge comme d'habitude. Bamber avait profité de ce laps de temps pour écrire la lettre qui accompagnerait ses histoires dans leur pérégrination. Lui, Bamber, disait cette lettre, ouvrait la porte du monde à ses histoires afin qu'elles puissent trouver le décor qui leur convenait, à elles et à leurs personnages. Il demandait à ceux et celles qui les ramasseraient d'avoir l'amabilité de les lui renvoyer et de lui signaler l'endroit où il les avait découvertes. Il ne trouverait le repos et ne pourrait rassembler ses histoires dans un livre que lorsqu'il saurait enfin où elles avaient planté leurs racines. Il promit d'envoyer un exemplaire de son livre à tous ceux qui accepteraient de l'aider. Il signa sa lettre et inscrivit son adresse. Au beau soin de M. Flore, d'ici et d'ailleurs, épicerie de gros et de détails. Bamber glissa un exemplaire de la lettre dans chacune des 11 enveloppes, même celle qui ne contenait que des feuillets vierges. Il pensa que l'histoire qui restait à écrire avait, encore plus que les autres, besoin de trouver son décor. Il attendit que les nuits fraîchissent. Son bon sens lui disait qu'un vent froid et glacial transporterait ses ballons plus haut et plus loin que n'importe quelle brise d'été. Enfin, le temps fut favorable. Un vrai vent d'est déposait une pellicule de givre sur les toits de la ville lorsque Bamber monta en fauteuil électrique avec ses ballons jusqu'à la lucarne du grenier. Il était environ 3 heures du matin. Bamber ne voulait attirer l'attention de personne. Et puis, il pensait que c'était le moment de la nuit où les avions et les corbeaux, qui auraient pu mettre en danger ces montgolfières miniatures, avaient déserté le ciel. Cette nuit-là, il lâcha les 3 premières histoires. Les ballons à la peau diaphane franchirent la lucarne ouverte et pénétrèrent dans la nuit avec une grâce à nulle autre pareille. Elles finirent par disparaître derrière les nuages comme autant de petites lunes. Bamber était heureux comme il ne l'avait jamais été. Lorsque la dernière de ces histoires, celle aux feuillets vierges, disparut dans le ciel, on était en février. Cela avait été un moment solennel. Au fil de tous ces mois, le vent nocturne avait soufflé dans de très nombreuses directions. Bamber avait déjà ouvert son atlas plusieurs fois pour les suivre d'un droit interrogateur. Mais la longue attente commençait. Où ces histoires étaient-elles parties? Voilà. Comme on le voit, c'est quand même un recueil qui est plein de poésie et de très belles images. Et en parlant d'images... Hop, chaque petite nouvelle est illustrée par une belle image dans un ton très porté sur la couleur. Et les illustrations sont de Moran Barak, voilà, qui, je trouve, a fait un travail absolument formidable. Parce que, voilà, il propose quand même des décors qui sont assez... assez fort, vraiment. Donc pour les auditeurs et les auditrices, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver des illustrations postées sur la page Facebook de Radio Sud. Bien sûr, on ne vous laisse pas à l'écart quand on a de belles choses à partager.
Et comme c'est bien organisé.
Oui, c'est chouette.
C'est vraiment bien. Ben, on est dans la lecture, alors on peut peut-être continuer.
Ah oui, comme ça, sans transition aucune. Nous allons repartir sur les routes avec Marie Fizen, donc, qui, je vous le rappelle, était partie en exil avec sa famille pendant la guerre. Elle est revenue et elle s'est aperçue en passant chez la tante Juliette que celle-ci, visiblement, accueillait de jeunes résistants. Au mois d'août suivant, elle a enterré son mari et ma cousine, son père. Nos deux aînés, Ida ou Louis, n'iraient plus porter de glace, mais notre frère se rendrait chez elle pour bien autre chose que je ne devais toujours pas connaître. Parfois, notre cousine passait à bicyclette devant notre maison et on s'étonnait de la voir pédaler sans s'arrêter. Quelle mouche l'avait piquée ! Une fois pourtant, elle entra et raconta d'une traite qu'elle était toujours pressée, que sa mère l'attendait. Vite fait, la voilà déjà partie. Messagère de l'armée secrète, elle allait sur les routes à l'aveuglette s'il le fallait, là où elle devait aller. Une de nos rencontres des plus cocasses se passa un jour sur le haut du Faël, la côte en rebond de la Nationale, à la sortie de Jamoigne vers Florentville. Je n'arrivais pas à séparer ma pensée du bocal de maquet qui plastronnait dans un de mes sacs. Le beau temps me fit succomber à la tentation. Je dressai avec précaution le vélo contre un arbre et, assis sur le talus à l'ombre du buisson, je plongeai mon doigt sans façon dans cet onctueux fromage blanc. Un énorme rire tout à coup m'arriva de la route. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'y prends !» cria ma cousine. « Et ta mère, qu'est-ce qu'elle va dire ?» La gaieté nous reprit toutes les deux et je lui criai à mon tour. « Tu en veux ?» Non, elle ne s'arrêterait pas. Cette fois, elle revenait aussi chargée que moi. Le ravitaillement qui était à la rechercher sans arrêt, elle le trouvait chez un frère de son père, approuvi. Il est vrai que ma mère ne fermait pas les yeux sur les entorses que nous faisions autour des provisions, à l'exception des fruits. « Il en faut pour tout le monde », rappelait-elle. Et puis il y a la mort des résistants. Alors je ne vais pas chanter, mais vous connaissez le chant des partisans. « Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine ? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne ? Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. » Dans la nuit du 17 novembre 1943, les villages se trouvaient engloutis sous un épais brouillard avec la gelée en sus au petit matin. Mon frère fut arrêté par un commando allemand, en plein sabotage sur la voie ferrée Bertry-Virton, au tunnel de la Hage, gare de Saint-Vincent. Le siège de cette équipe de résistants tenait ses assises à la ferme des Roses à Florentville. Les trois frères et les deux sœurs de la famille Fontaine, des cultivateurs, étaient entièrement engagés dans l'armée blanche, comme on l'appelait, tandis que l'armée allemande les taxait de terroristes. Selon l'organisation de l'armée secrète, les équipes de saboteurs relevaient du groupe G et dépendaient en direct de Londres. Cette fois, les ordres étaient de boucher le tunnel en lançant dans les deux sens une locomotive. Une mission très difficile, qui exigeait une préparation très étudiée et une certaine durée de temps. L'équipe s'y adonnait dans tous les détails, rien n'était laissé au hasard, encore moins à l'improvisation. Leur premier souci était de préserver la vie humaine. Arrêté sur le champ de leur action, Louis Fizen fut aussitôt roué de coups et torturé dans la gare même. La ferme des Roses fut cernée. Il y eut plusieurs arrestations. Dénonciation ou malchance. L'affaire ne sera jamais éclaircie dans l'après-guerre. Louis Fizen se trouvait être le mécanicien spécialiste, son rôle étant de passer à la technique comme de lancer les locomotives. C'est en sautant en bas de la machine en marche qu'il buta sur deux silhouettes qu'il ne put reconnaître et qu'il risquait donc de confondre avec les siens. Le signal d'une lampe de poche permit à ses coéquipiers de prendre la fuite. Il fut emmené directement. Pourquoi dans cet établissement s'agissait-il de réquisitionner un local ? Il fut emmené directement donc au pensionnat des sœurs de la doctrine chrétienne à Virton, enfermé pour un interrogatoire et les premières tortures. Une religieuse témoigna de son courage. « Priez pour moi, ma sœur, lui dit-il, je vais en avoir besoin. » Il savait que son compte était bon. À quel prix garda-t-il sa force et son silence ? Dès qu'elle apprit la nouvelle, tante Juliette accourut, prête à donner tous ses services. Hélas, personne n'y pourrait rien. La rigueur de l'hiver grossissait les angoisses et les inquiétudes. L'armée d'occupation resserrait son étau, la Gestapo véhiculait son zèle et semait la terreur. Un soir de décembre, alors que la nuit montait enneigée et glaciale, un message arriva chez tante Juliette. Avertissez de toute urgence le bourgmestre Germain Gilson qui sera arrêté cette nuit. Depuis une heure déjà, elle guettait le retour de sa fille. Celle-ci rentra enfin en poussant son vélo qui ne voulait plus tenir la route dans les ornières de neige. Laquelle des deux descendrait à Moyen où habitait le bourgmestre ? la mère ne céda pas d'un pouce. Harassée d'avoir porté un message par ce temps de chien, sa fille ne ressortirait pas. De plus, elle jugeait la mission dangereuse. Habillée à la hâte, mais avec soin, elle chaussa sur ses bottines des chaussettes de laine qui lui permettraient de tenir sur la glace. Elle s'enroula dans la vieille pèlerine en drap de son mari qui pendait encore à l'entrée, avec le capuchon rabattu sur le chapeau enfoncé jusqu'au nez. Nantie d'une canne ferrée, Juliette, sûre de son affaire, s'enfonça dans les ténèbres hivernales. Elle évita la grande descente qui traverse Isel jusqu'à Moyen, rechercha le plat tout en essayant de prendre les raccourcis. Pas facile, un bon kilomètre de distance. Elle pensait aux fenêtres qui risquaient de la trahir. Mais c'est la Juliette, ça! Qu'est-ce qu'elle peut bien faire à cette heure-ci sur les routes et par ce temps de chien? Enfin, elle frappa chez l'intéressé qui ouvrit lui-même la porte. « Vite, 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 très vite !» Ce fut fait. Il lui restait maintenant à remonter les pentes en soufflant son haleine fumante sur la gelée. Du haut de sa maison, derrière les vitres et dans l'obscurité, sa fille priait afin de voir sa mère rentrer à bon port. L'heure du couvre-feu était loin. Qui pourrait-elle croiser sur le chemin si ce n'est une patrouille allemande? Un chiquet d'alcool fort et la préparation d'une tisane qu'elle burent bouillante, la brique recuite à la chaleur du four et qui chaque soir enfumait une épaisseur de papier journal à l'instant de la mettre au lit, mère et fille finirent bien par s'endormir. Dans la nuit, la Gestapo envahit la maison Gilson mais ne trouva personne. Demain, on raconterait la perquisition chez le bourgmestre. Faut croire qu'il a été prévenu pour se sauver comme ça. On ne va pas le revoir de sitôt, le Germain. La Juliette, bouche cousue, écouterait de ses yeux tout ronds. Énigmatique, j'entends Juliette, qui, oubliant tous les dangers, se risquait à sauver une tête. Elle l'aurait fait pour d'autres, parce qu'elle pensait foncièrement que là était son devoir. Sacrée tante Juliette, hein. Sacré personnage, une femme de caractère, je rappelle le titre de l'ouvrage. Et pour se rappeler donc cette époque et l'extrait de chanson, je vous propose d'écouter Catherine Ribeiro en public a cappella avec le chant des partisans.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et de l'âme. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux de lit. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Oh, 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 oh.
belle version, hein.
Extrêmement impressionnant.
Oui.
Oui.
On ne sait plus très bien quoi dire après ça.
Et on est resté absolument silencieux dans le studio. D'habitude, pendant les pauses musicales, on parle un peu, hein, quand même.
Beaucoup.
Oui, beaucoup. Et puis cette fois-ci, silence total, complet. Moi, j'ai la chair de poule. Enfin, c'est une magnifique version d'une chanson déjà extrêmement touchante au départ. Hein.
Oui, oui. Et donc, qui rend hommage à la tante Juliette de Marie Fizaine. Oui.
Mais...
T'as le droit de parler, Jean-Marie.
Oui, je suis supposé dire quelque chose. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, avec oui. beaucoup d'émotions. Hein.
Oui.
Et ben voilà, je vais juste vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une belle soirée, ça dépend du moment auquel vous écoutez cette émission. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Sud ou sur Internet.
On sera effectivement ravis de vous revoir, enfin, de que vous nous écoutiez à nouveau. Au revoir.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir tout le monde.